mais une bande d'analphabètes qui tourne autour du président américain. Je pense, j'ai la faiblesse de croire que le secrétaire d'État Rubio, qui est à Bruxelles aujourd'hui, n'a pas été
Il est accueilli froidement à la réunion de l'OTAN.
Certes, mais enfin non, les bras m'en tombent. Et c'est dommage parce que l'Amérique nous donne en général quand même une image de professionnalisme réel, avec des cadres de haut niveau. Et donc, ça ne fait qu'écorner encore davantage l'image de ce pays et finalement affaiblir un partenaire qui reste quand même important pour l'Union européenne.
Oui, Stéphane, en quelques mots, parce que j'aimerais vous montrer une autre image de Kamala Harris.
Oui, ça paraît très anecdotique quand on voit ces chiffres, mais pensez par exemple à l'Asie, l'Asie du Sud-Est,
oui, là,
qui a mis des dizaines d'années pour s'intégrer dans ce monde et cette économie globale qui est devenue effectivement la région des transformations, mais également qui a des produits exportés vers les États-Unis, entre autres, que les Américains n'ont pas, je pense, entre autres. Si vous prenez le riz, si vous prenez les fruits exotiques, pour prendre un exemple, c'est des produits qui sont surtaxés alors qu'ils n'existent pas sur le marché américain. Donc c'est tout à fait absurde. Mais les conséquences sont dramatiques parce qu'on voit des pays entiers, je pense à la Thaïlande, on parle de la Corée, mais d'autres pays, qui peuvent se retrouver dans des situations économiquement catastrophiques parce qu'effectivement, elles sont sorties de leur situation précaire au fil des années en devenant de nouveau des pays de transformation. Et c'est le risque est de mettre à l'arrêt des économies entières, et en plus en la basant de nouveau sur des calculs totalement absurdes. Donc les conséquences sont des conséquences planétaires et globales, et qui vont toucher à nouveau les gens au quotidien dans leur vie.
Avec l'Union européenne sérieusement impactée, mais vous l'avez dit aussi, l'Asie, hein, des chiffres complètement fous. Alors d'abord pour la Chine, mais si vous regardez le Vietnam, le Cambodge, le Sri Lanka, on atteint des montants absolument extraordinaires. On va se quitter quelques instants, mais restez bien avec nous, parce qu'on va se demander limite à deux mandats, ces mandats présidentiels.
Alors historiquement, les pères fondateurs limitaient la présidence à deux mandats pour permettre simplement un renouvellement auprès de la Maison Blanche, pour garantir que le président soit toujours en phase avec la société dans laquelle il vit, que justement il n'y ait pas de dictateur qui s'installe à long terme à la Maison Blanche. C'est sans doute en réaction aussi, au moment de la création de la Constitution et de Bill of Rights, en réaction au système au pluriel qui était en place en Europe à l'époque, où justement une personne pouvait rester au pouvoir très longtemps et donc une certaine la corruption pouvait s'installer, etc. Donc on va limiter la durée des mandats pour permettre un certain renouvellement qui soit en phase avec les changements de la société, au même titre que les mandats au Congrès, donc la Chambre des représentants, et au Sénat, qui sont renouvelés assez régulièrement. Si ce n'est que là, on peut rester un petit peu plus longtemps, mais toujours avec l'accord d'une population qui, elle, va pouvoir décider à un moment donné si ils estiment que c'est toujours nécessaire de les garder en place. C'est un petit peu différent au niveau du Congrès. Éviter qu'une personne au niveau de l'exécutif n'ait tout le pouvoir, c'est l'idée.
Oh, oui, ça sonne bizarrement aujourd'hui, évidemment, Stéphane Rosenblatt, juste pour, je ne sais pas si c'est pour dire rassurer les gens, mais quelle probabilité vous donnez que cela puisse se produire, que Donald Trump reste président ?
Peu importe la probabilité. En fait, à nouveau, on est dans la provocation pure. On est dans le fait de marquer l'événement, hein, en faisant parler, en montrant qu'effectivement, ben, on est indispensable.
Mais la porte-parole de la Maison Blanche, j'ai dit, attendez, vous lui posez la question,
on crée donc des spéculations à nouveau sur la manière qu'il utiliserait, puisqu'il dit qu'il existe des méthodes, hein, cette fameuse méthode, on parle du fait que, en fait, J.D. Vance, son vice-président, se présenterait à la présidence dans 4 ans avec Donald Trump comme vice-président, et que J.D. Vance démissionnerait, et que donc c'est Donald Trump qui
serait président.
Ce qui nous rappellerait la situation à la Poutine, puisque ça s'est exactement passé entre Medvedev et Poutine. Donc voilà, mais peu importe, puisque en fait, dans 4 ans, ben, ce président aura l'âge de Joe Biden lors de cette campagne-ci, donc il aura quand même plus de 82 ans, mais enfin, il a l'air en pleine forme. Et puis de nouveau, une information en emballait une autre, parce que c'était il y a même pas une semaine, et aujourd'hui on est dans tout autre chose, et ça fait partie de nouveau du déroulé Trump. On l'a déjà répété, mais on le répète chaque semaine, hein, le fait de bombarder en permanence le pays d'une multitude d'informations qui fait que quand vous êtes un opposant soit vous êtes complètement bouche bée parce que vous ne savez pas comment réagir, soit effectivement vous ne savez pas hiérarchiser le type d'information et le type de dossier sur lequel vous devez vous engager. Il y a encore quelques années, une information comme celle-là, un président qui laisse entendre qu'il fait un troisième mandat aurait été un scandale absolu. Aujourd'hui, c'est presque une anecdote, effectivement, hein, et lui aime ça, mais ça fait partie de nouveau d'une stratégie d'ensemble pour faire passer finalement, sans une opposition marquée, des dossiers d'une importance crucial pour l'avenir du pays, la justice, là maintenant l'économie, la diminution le système administratif américain avec Doge et bien d'autres exemples qui est en train de refaçonner la totalité de la société américaine aujourd'hui. Et c'est la stratégie ou la tactique plutôt qu'il utilise, et c'est un épisode parmi beaucoup d'autres, et il y en aura encore d'autres.
Ouais, qui nous donne quand même pas mal de sujets aussi tous les vendredis sur LN24 à 20h30 pour Bonsoir l'Amérique. Raoul Delcorde, qu'est-ce que ça nous dit quand un dirigeant souhaite modifier les lois ou modifier la constitution d'un pays pour rester au pouvoir? Quelles conclusions vous pourriez en tirer là maintenant, Raoul Delcorde?
En Europe, on parlerait de démocratie illibérale, c'est-à-dire une manière de au fond, faire s'effondrer les institutions progressivement, quand bien même le projet paraît quand même peu réaliste, sincèrement. D'abord parce que le président américain actuel ne dispose que d'une faible majorité au Congrès, ensuite parce que tout doucement quand même, l'opposition démocrate sort de la sidération. Finalement, l'ancien président Obama s'est exprimé aujourd'hui, et donc les démocrates se font entendre. Et puis les quelques événements comme la Cour suprême du Wisconsin, n'est-ce pas, démontrent bien que même dans l'Amérique profonde, il y a un sursaut. Donc non, comme le dit mon collègue, cette manière presque permanent de remettre en question les institutions, à la longue, finit par percoler dans l'opinion, et ça, c'est très grave.
Mmh. Ouais, c'est vrai que ça, Isabelle Saint-Paul, oui. Ce n'est qu'une étape de plus, mais attention, peut-être la dernière étape de Donald Trump qui piétine, alors, l'état de droit aux États-Unis, en tout cas les fondements de ce qu'est aujourd'hui la démocratie américaine.
Oui, tout à fait.
Simplement même l'envisager. Hein.
Oui, même l'envisager. Et c'est à nouveau pour rejoindre ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est la répétition de certaines choses, même aussi choquantes soient-elles, la répétition, le fait d'être noyé sous ces informations qui banalisent l'information. Là, on n'invente rien. Je veux dire, il y a des spécialistes qui se penchent sur cette question depuis des années. La fenêtre de ce que le peuple accepte, hein, la fenêtre, ce qui choque la population, est en train de se déplacer.
Cette fenêtre en fait,
historiquement,
aussi, hein,
voilà, exactement. La fenêtre est en train de se déplacer, et donc là maintenant, le peuple, à force d'entendre des énormités, commence à trouver que finalement il n'y a rien de très choquant là-dedans.
Mais Isabelle, parce que évidemment en Belgique, on a un rapport peut-être différent sur la Constitution rapport à nos amis américains. Est-ce que les Américains, ils sont pas choqués d'entendre un président qui dit je vais modifier la Constitution, mais vous inquiétez pas, c'est pour vous que je le fais, pour rester président?
Si, tout à fait, je pense. Et à nouveau, on a tendance à parler et à mettre peut-être un peu trop l'accent sur les supporters de Trump. Alors moi, vous le savez, je suis aussi de nationalité américaine. J'ai de la famille aux États-Unis, j'ai énormément d'amis aux États-Unis, j'étais à l'école, j'ai été éduquée là-bas. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'Américains aujourd'hui qui se manifestent. On l'a vu à la télévision internationale tout au cours de cette semaine, les manifestations devant la tour Trump à New York, entre autres. Dont on parlera tout à l'heure, le discours de Cory Booker au Sénat. Il y a énormément d'Américains qui se manifestent, et malheureusement, sans attaque aucune, je pense qu'énormément de médias ont tendance à se focaliser sur Trump et ses supporters, parce que c'est ce qui fait le buzz, c'est ce qui fait parler. Mais en réalité, il y a aussi toute une grande partie de la population américaine qui n'en dort plus aujourd'hui, et malheureusement, on va rarement les interviewer pour montrer qu'ils sont là et qu'ils sont en train de réagir de manière virulente aussi. Et on devrait en parler un petit peu plus, peut-être.
Oui, c'est vrai que nous, on répercute un petit peu ce qu'on entend le plus, hein, aussi, vu de Belgique, tout en essayant d'analyser, justement, ce
tout
qui nous
fait.
Arrive jusqu'ici. Et parfois,
voilà,
nous, on sait aussi.
On doit être dans l'analyse.
Vous avez raison,
voilà.
Isabelle.
Non, mais c'est très bien.
Juste, Raoul Delcorde, vous qui connaissez si bien ce milieu européen aussi, du côté de l'Union européenne, on espère plutôt un retour à la normale dans 3 ans et demi, plutôt que d'un mandat supplémentaire de Donald Trump.
Faut-il le dire. Mais un retour à la normale, vous savez, il y a des signes avant-coureurs déjà à l'époque de Biden qui nous ont fait comprendre qu'il y a un retour vers le protectionnisme et l'isolationnisme aux États-Unis. Ça, c'est une tendance.
C'est pas une révolution Trump, c'est dans la méthode, mais sur le fond, on avait des signes évocateurs, vous l'avez dit.
Qui reviennent, auxquels on était peut-être mal préparé. Alors, bon, aujourd'hui, tout le monde se gargarise de l'autonomie stratégique et du fait que c'est le sursaut qu'on attendait et maintenant on va se réveiller, sauf que ça va prendre plus que 4 ans, donc plus que le terme du président américain.
Oui, Stéphane, le monde entier peut encore faire face à 4 ans de poids.
Mais rappelez que la solution, elle viendra de l'intérieur des États-Unis. Et là, c'est un coup de poker majeur tenté par Donald Trump. Mais si les électeurs, effectivement, se rendent compte que leur situation quotidienne se dégrade de manière rapide, que leur vie quotidienne, ce pourquoi Donald Trump a été élu à nouveau, le faire de baisser les prix, hein, de juguler l'inflation, ça ne marche pas. Je pense qu'effectivement, c'est pas dans 4 ans qu'on en parlera, mais dans 1 an et demi. Rappelez qu'aux États-Unis, tous les 2 ans, on renouvelle la totalité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Ce sont les midterms qui peut priver, mais on n'en est pas là du tout, mais qui pourrait priver de toute capacité au président, c'est d'arriver à de nombreuses reprises, de pouvoir réaliser son agenda politique, car il n'aurait plus de majorité. Aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité pour lui historique, présidence, Chambre, Sénat. Et encore, c'est compliqué, parce qu'on voit bien, et Cour suprême, c'est compliqué, parce qu'on voit au sein même des Républicains, entre autres sur le déficit budgétaire et les tarifs, qui est un point très sensible, des questions qui commencent à émerger, mais pas au point, manifestement, d'aller contre frontalement le président, qui menace de représailles, hein, ses représentants, c'est-à-dire de mettre face à eux, aux midterms, d'autres magas, pour pouvoir éventuellement les contrer. Vous l'avez dit, un parti démocrate qui commence à sortir de sa sidération, mais avec des méthodes, à l'exception de Cory Booker, dont on parlera,
c'est pour maintenant,
voilà,
ça, on va y
mais qui sont encore quand même, qui est dans ce dilemme. Est-ce qu'il faut traiter de manière différente Trump, qu'on traite les institutions, ou est-ce qu'on doit les respecter, effectivement, alors que Donald Trump ne les respecte pas? Il y a des grandes divisions au sein du Parti démocrate aujourd'hui, mais ça semble enfin bouger, mais on est loin. Et la solution, c'est l'Américain moyen, qui, s'il pense qu'il a été trahi par Donald Trump sur sa vie quotidienne et qu'il voit ses problèmes empirer, pourrait très bien aussi vite se venger dans 2 ans lors des élections.
Ce qui est dingue, non, on en est pas là. C'est que cette difficulté, on l'a, nous, en tant que médias, comment aborder justement le phénomène Trump. On voit que l'Union européenne et les autres pays du monde ont du mal aussi comment aborder notamment ses annonces. Et puis, effectivement, les démocrates, ça ne va pas être facile. Justement, pour terminer, on a encore du temps, hein, je vous rassure, mais tour d'horizon des actualités qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Et pour ça, eh bien, nous retrouvons à nouveau en plus de 25 heures, Louis.
Sans s'asseoir et sans faire de pause, Cory Booker, sénateur démocrate, a battu le record du plus long discours. Il a dénoncé la politique de Donald Trump qu'il juge inconstitutionnelle. Écoutez.
Cet homme qui n'agit pas comme un président, mais qui bafoue nos traditions constitutionnelles, viole nos lois alors qu'il se retrouve ligoté devant les tribunaux, ignore les décisions de justice et dénigre les juges lorsqu'une décision ne lui plaît pas.
Alors évidemment, difficile de résumer ce qui a été dit pendant un discours aussi long. Cory Booker a notamment utilisé une phrase d'un de ses mentors, hein, il appelle les Américains à provoquer, je cite, « du bon désordre ». Évidemment, après une prise de parole aussi longue, il est sorti exténué et visiblement très élu, applaudi aussi par les sénateurs qui étaient présents dans la salle, vous le voyez juste ici.
Oui, j'ai pas demandé à Louis de nous résumer, hein, ces 25 heures, vous me pardonnerez, vous qui nous regardez. Autre actualité de cette semaine, Louis, cette élection à la Cour suprême du Wisconsin, on peut le dire, première défaite pour Donald Trump, mais aussi et surtout pour Elon Musk.
Oui, hein, et normalement, une élection de ce genre, eh bien, serait passée complètement sous les radars, en tout cas chez nous ici en Belgique. Mais si on en parle, c'est parce que cette juge, Suzanne Crawford, a été élue à ce poste et elle est démocrate. Ça, c'est intéressant parce que le Wisconsin, c'est un état particulier. C'est un de ces états clés dont on vous a tellement parlé pendant l'élection. Et cette élection à la Cour suprême du Wisconsin, eh bien, elle donne un premier indicateur quelques mois après l'arrivée de Trump à la présidence des États-Unis. C'est intéressant aussi parce que la Cour suprême du Wisconsin, elle va devoir statuer sur des questions liées au droit aux lois électorales dans les prochains mois.
Oui, Louis, cette élection a aussi été particulièrement médiatisée cette semaine.
Oui, beaucoup plus que d'habitude. Trump avait bien évidemment soutenu publiquement la campagne de la candidate républicaine, hein, qui s'opposait donc à celle qui avait été élue, la démocrate. Mais c'est surtout Elon Musk qui a tout fait pour qu'elle ne soit pas élue. Pour vous donner une idée, Musk a donné, regardez, avec un groupe de milliardaires, 21 millions de dollars pour la campagne de la républicaine face à Suzanne Crawford. Il s'est même carrément rendu sur place pour essayer d'acheter l'élection. Un duel entre une candidate démocrate et l'homme le plus riche au monde qui se termine par une défaite du patron de Tesla.
Justement, Louis, pour terminer là-dessus, une autre défaite qui pourrait bien arriver pour Elon Musk, c'est son renvoi de l'administration Trump. C'est en tout cas ce que rapportent certains médias américains.
Oui, selon Politico et NBC, Donald Trump aurait confié en privé la fin de la mission prochainement d'Elon Musk à la tête du DOGE, le département de simplification administrative. Selon ces médias, Trump aurait dit à ses conseillers que Musk allait retourner à ses fonctions de chef d'entreprise. En fait, Elon Musk travaille pour la Maison-Blanche comme employé spécial. C'est un statut qui lui permet de rester 130 jours maximum en fonction, soit jusqu'à la fin du mois de mai. Enfin, maximum, ça peut quand même être prolongé. par la Maison-Blanche, mais ça ne sera peut-être pas le cas. Et puis, de son côté, la porte-parole de la Maison-Blanche a démenti dans un tweet que vous allez voir. Elle dit que c'est des fausses nouvelles. Et Elon Musk, lui, commente fake news pour terminer cette séquence.
Merci, Louis. J'ai bien aimé le Donald Musk aussi, ça en dit beaucoup. Merci beaucoup, Louis Daminé, pour ce tour d'horizon. Raoul Delcor, peut-être commençons avec vous. 25 heures de discours comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Impressionnant, quand même.
Oui, vous savez, je crois qu'il y a une tradition, et ma voisine le confirmera, au Congrès américain, de ce qu'on appelle le filibustering, et qui consiste effectivement à monopoliser la parole pour empêcher les autres de s'exprimer. Mm-hmm. Nous avons moins cette habitude dans nos parlements, heureusement peut-être. Mais c'est quelque part le témoignage, comme d'autres, d'une forme de redressement progressif de l'opposition démocrate, qui était dans un état de sidération assez étonnant depuis la victoire de Trump. Mmh. Alors, ce genre d'événement ne va pas provoquer un chamboulement au sein de l'opinion américaine, mais au moins, elle nous rassure de l'autre côté de l'Atlantique qu'il y a encore, quelque part, aux États-Unis, que ce soit chez les juges, chez les politiques, peut-être aussi au sein de certaines entreprises, une forme de rationalité, de bon sens qui prévaut et qui veut essayer de limiter au maximum les dérives de la présidence Trump. Voilà le seul signal que l'on peut en percevoir.
Une forme d'opposition aussi, ça fait du bien quand même, oui. Ça rassure aussi, ça rassure. De cette manière. Oui, Isabelle Saint-Paul.
Oui, et donc vous parlez de rassurer, de nous rassurer, nous, de ce côté-ci de l'Atlantique, mais ça rassure aussi énormément d'Américains. Mm. Simplement pour le geste symbolique, en effet, techniquement, ce n'est pas vraiment un filibuster, parce que le filibuster a pour objectif de bloquer le Sénat dans le passage d'une loi, ce qui n'était pas nécessairement le cas ici, c'était simplement de monopoliser les débats, en effet, pendant plus de 25 heures. Il n'est pas le premier à utiliser cette tactique simplement pour attirer l'attention du public américain sur le caractère grave d'une situation ou simplement pour manifester un mécontentement avec les décisions prises par soit le Congrès de manière générale ou l'exécutif d'un autre côté. Historiquement, les deux grands derniers moments similaires dans l'histoire des États-Unis, à l'époque des droits civils, un démocrate avait également tenu un discours de plus de 21 heures, si je ne m'abuse, à l'époque, contre les droits civiques, justement, pour dire qu'il n'adhérait pas du tout aux lois qui avaient été préparées par John F. Kennedy et puis après signées, qui ont finalement été signées par Lyndon B. Johnson. Et puis plus récemment, en 2013, si je ne m'abuse, c'était le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui lui avait tenu également quelque chose comme 24 heures ou 21 heures, enfin voilà. Devant le Sénat aussi, et lui c'était en opposition à Obamacare. Mais donc c'est quand même une tactique qui est utilisée, qui n'est pas utilisée chaque année, on est bien d'accord, sur le territoire américain. Et donc quand cette tactique est utilisée, à mon sens, elle témoigne quand même d'un mal-être et d'un besoin que les représentants qui ont été élus par le peuple américain ont de rassurer ou de dire, écoutez, nous sommes là, nous sommes également choqués par tout ce qui est en train de se passer et quelque chose doit être fait.
Louis Dominique l'a dit, il y a quand même eu une